Boire ou courir, faut-il choisir? En effet, aujourd'hui, nous allons parler alcool et sport avec un champion lui-même amateur de vin. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet que je ne pensais pas aborder un jour dans un podcast lié au sport. Apéro, vin, champagne, bière, peut-être est-ce une partie de votre menu pendant ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous lançons donc une série de 3 épisodes sur le sport et l'alcool. Deux sujets, je le dis, qui dans ma tête ne vont pas vraiment bien ensemble. Et pourtant, l'alcool, le vin, est un sujet très culturel, surtout en France. C'est une tradition. Beaucoup de sportifs aussi en boivent. Beaucoup d'anciens sportifs de très haut niveau sont devenus alcooliques, notamment des nageurs olympiques qui ont témoigné. L'alcool est aussi vu comme un élément de cohésion dans certains sports, on pense au rugby, sa fameuse troisième mi-temps, mais certaines anecdotes venues de l'équipe de foot d'Arsenal, par exemple, montrent que ça touche tous les sports. Et l'alcool est aussi considéré comme un produit dopant dans certains sports ou un produit de récupération quand on parle de la bière dans l'endurance. Ce sont des sujets que nous allons balayer avec 3 épisodes. Dans 15 jours, nous parlerons d'addiction et de la consommation parfois incroyable d'alcool chez certains sportifs, de ses rites de passage, de comment l'alcool vient s'insérer dans sa vie de sportif sous pression. Et dans un mois, nous aurons le témoignage d'un coureur d'ultra ancien alcoolique qui nous explique son parcours et qui nous montre à quel point le corps peut se reconstruire. Et pour débuter cette série, aujourd'hui nous avons invité Bruno Eubi. Nous l'avions déjà invité plusieurs fois car Bruno fait partie des référents sur longue distance, vainqueur des 100 km de Millau, équipe de France de 24 heures à 100 km, champion du monde sur 100 km, entraîneur et désormais jeune triathlète, à la soixantaine passée. Il a bouclé l'Ironman l'an dernier pour ses débuts en triathlon. Et je ne le savais pas car nous en avions jamais parlé, il est aussi amateur de vin. Et il a toujours été, même quand il était athlète de haut niveau. Alors comment a-t-il concilié sa passion pour le vin et sa carrière de sportif de haut niveau? Vous allez écouter qu'à l'époque, tout comme maintenant, il a fixé quelques règles dans sa consommation, dans son entraînement, ce qu'il boit, quand il boit, comment il boit. C'est justement de ce sujet dont nous allons parler. Bruno nous parle de sa passion, de ses règles, de sa vision de l'alcool et du vin, d'anecdotes aussi en tant que sportif et entraîneur, sur comment allier les deux. Et bien entendu, avec modération. Allez, c'est parti. Bonjour Bruno.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ben ça va très bien. Ravi de te retrouver pour une nouvelle discussion.
Et oui, nouvelle discussion sur un sujet auquel moi je te dis je ne connais rien du tout. Mais alors rien du tout. Et mais comme j'ai l'habitude de faire le candide, novice et compagnie, ça me va bien, tu sais. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet alors qui pour toi c'est une passion, si j'ai bien compris.
C'est ça. C'est vrai que c'est une de mes passions en dehors du sport qui fait partie vraiment intégrante de ma vie. Il y a quelques passions et le vin, l'œnologie en font partie.
Alors, ce qui peut sembler comme ça, a priori, un peu surprenant, étonnant, peut-être pour certaines personnes, en se disant, mais un champion comme toi, qui a des titres, qui a gagné des courses, etc., boit du vin, passionné par l'œnologie, etc. Ça fait longtemps que tu es passionné par le vin?
Oui, ça fait très longtemps. En fait, moi, je suis né dans une région viticole. Je suis né à Troyes, dans l'Aube, donc pays du Champagne. Et puis, j'ai fait pas mal d'années de ma carrière d'enseignant d'EPS dans la vallée de la Marne, dans un petit collège qui s'appelle le collège Professeur Nicaise à Marulle-le-Port. Donc un petit coucou à tous les gens de la vallée de la Marne. Et donc j'étais entouré de villages de viticulteurs, d'élèves, d'enfants dont les parents étaient viticulteurs. Donc ça a contribué à développer encore plus cette appétence que j'avais pour le vin et pour cette passion que je me suis découvert. Mes parents ne buvaient pas une goutte d'alcool. Chez moi, personne ne buvait. Donc voilà, je ne sais pas si ça aurait fait partie de tes questions, mais voilà, chez moi, personne ne buvait d'alcool. Mais voilà, j'ai été attiré par tout ce qui a trait au vin, très
donc,
jeune.
C'est-à-dire qu'en fait, toute ta carrière, tout le temps, t'étais passionné par le vin, quoi. Je veux dire que c'est pas une passion. Mon truc, c'était de dire que c'est pas une passion récente, tu vois, ou un truc comme ça.
Non, dès très jeune, je me suis intéressé au vin et après, passé, enfin, arrivé à l'âge où je pouvais m'en acheter, voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à chercher, à comprendre. Et je n'ai aucune idée et je ne sais pas pourquoi cette passion est arrivée. Je ne sais pas parce que franchement, autour de moi, mes parents ne buvaient pas une goutte d'alcool. Donc, je ne sais pas du tout comment je me suis pris de passion pour ça. Il n'y a pas l'explication en fait.
Bon, bah, écoute, les passions, c'est comme ça. Hein. Tu aurais pu te passionner pour les timbres ou les papillons. tu as choisi les bouteilles. Je ne sais pas quel est le plus cher. Bon, ça prend un peu de place les bouteilles peut-être. Tu as peut-être une cave, je ne sais pas comment tu gères ça. Mais...
Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai une cave et puis j'ai une armoire aussi à vin pour que les vins soient à bonne température. Donc oui, c'est... Alors j'ai transmis cette passion par contre à mon fils, Simon. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais peut-être parce que lui est vraiment passionné de vin aussi. Donc ça, je l'ai transmis à mes enfants, comment on goûte un vin, quelles sont les spécificités d'un vin. Et lui, il a donc une cave à vin à Épernay et c'est... essentiellement grâce à lui maintenant que je peux vraiment me procurer des bonnes bouteilles. Donc j'ai des petites quantités, mais je peux cibler vraiment ce que je veux grâce à lui qui est caviste.
D'accord. Bon, c'est un sujet intéressant le vin parce qu'on en parlait avec Patrick Rollo, dont on n'a pas encore diffusé l'épisode par rapport au moment d'enregistrement, puis on va le diffuser un petit peu plus tard. Qui était alcoolique. On avait parlé un petit peu de son parcours, etc. Et on disait que le vin, c'est quand même très culturel. On est dans un pays où l'alcool est très culturel, le vin. Alors toi, en plus, bon, la Marne, champagne et compagnie, en plus, vous avez le champagne. Et donc là, mondialement connu, même si je t'avoue que je passais à Reims un petit peu de temps en temps à une époque. J'ai pas l'impression qu'il y avait tant de vignes que ça partout, mais peut-être que je passais pas par les bonnes routes. En tout cas, quand on est dedans, ça paraissait pas si comme ça. Et... c'est vraiment, il y a une culture autour de ça, il y a des grands lobbies, on exporte, on est très fiers de tout ça, etc. Et pour autant, la question qu'on va se poser, parce que là on parle de sport et tout, c'est comment finalement on rend tout ça compatible avec un mode de vie sportif, un mode de vie sain, comment tu as rendu ça compatible aussi avec ta vie d'athlète, de haut niveau, d'entraîneur, etc. Parce qu'il y a des questions qui se posent, hein, les gens, etc. Comment on peut gérer tout ça? Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette série sur l'alcool, parce que c'est quand même à la fois un truc culturel et à la fois un truc qui pose question quand même, hein, même si on parle de la bière de récup, un peu pour se donner bonne conscience après la bière, mais quand même, hein, comment toi tu vois ces choses-là en fait?
Alors c'est vrai, c'est exactement ça, c'est vraiment très culturel, on est quand même des Gaulois, hein. Donc on aime ça, on a ça dans notre culture, et c'est vrai qu'à l'inverse, parfois dans des réunions entre amis, celui qui ne boit pas d'alcool est montré du doigt, et ça c'est vraiment pas bien, ça prouve à quel point c'est culturel, voilà, mais ça c'est pas bien, il faut pas le faire, il faut pas montrer du doigt les gens qui ne boivent pas d'alcool, ou penser qu'on ne peut s'amuser que si on a bu et que si on est alcoolisé. Ça, c'est les choses contre lesquelles je me bats. Hier midi, on est allé manger au resto avec des amis, mais mes amis ont pris une bière, moi j'ai pris un Perrier citron, et voilà, et tout va bien. Donc, c'est vrai que c'est très culturel, et il faut essayer de lutter contre les aspects négatifs de cette culture qui consisterait à dire que voilà, le vin est obligatoire. Et... c'est vrai que c'est une boisson festive. Moi, je ne bois jamais, quasiment jamais, seul.
Ouais.
Voilà, je vis seul, hein, donc je ne bois jamais seul. Je ne bois qu'avec des amis pour partager des moments de convivialité. Mais donc je m'astreins à ne jamais boire seul parce que je pense que on est tous potentiellement susceptibles de tomber dans cette addiction qu'est l'alcool, comme le tabac, comme le sport, la course à pied. Enfin, ça, je pense que c'est une saine addiction, mais on a tout ça qui nous pend au nez, surtout dans d'autres pays où l'alcool fait partie un petit peu des meubles. Donc, je crois qu'il faut vraiment être très vigilant, et je le suis d'ailleurs, avec la consommation d'alcool.
Bon, ça va, toi, t'es assez jeune pour ne pas avoir connu l'alcool à l'école, le petit verre et tout, quand on est aux enfants.
Mais c'est vrai, c'est quand même incroyable quand on y réfléchit bien. C'est quand même hallucinant, quoi, de penser qu'il n'y a encore pas si longtemps, on donnait de l'alcool dans les écoles. C'est juste hallucinant. Donc là, il y a vraiment énormément de progrès qui ont été faits. Et même, je trouve, hein, je ne sais pas si on en parlera, mais l'évolution des modes de consommation est assez spectaculaire. Moi, j'ai vu l'évolution au niveau qualitatif, justement, dans la montagne de Reims et dans la vallée de la Marne. l'évolution du vignoble et des viticulteurs, elle est juste stupéfiante en termes de qualité. Je ne sais pas si c'est le sujet de notre discussion ou si on en parlera ou pas, mais bon, je te laisse mener la conversation. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une évolution qui va vraiment dans le bon sens, à mon avis.
Mais je trouve que c'est un sujet qui est intéressant, qui est un peu lié un petit peu dans l'histoire, parce que on en parlait avec Patrick, on en parlait justement en disant que, tu sais, moi, quand j'étais adolescent, on avait un bar juste en face du lycée. Et j'ai des souvenirs quand même de camarades qui allaient se prendre un petit rouge qui était pas cher. C'était le truc le moins cher, le petit ballon de rouge là. Et c'était ce qu'il y a de moins cher dans le bar. Et j'ai me souvenir de certains cours de maths où ils revenaient, où franchement, c'était pas facile de faire les tangentes. c'était super compliqué. Ou même à la fac, au moment du Beaujolais nouveau, tu vois. Mais des cours où franchement ça sentait l'alcool, etc., parce qu'il y a des bars qui étaient pile en face des facs, en face, tu vois, tout ça comme ça, et avec des vins de pas très bonne qualité. Alors je vais pas faire un jour au Beaujolais, moi j'y connais rien de toute façon, je fais pas un jour, tu sais, moi je choisis un vin en fonction de l'étiquette. Si l'étiquette me plaît graphiquement, je me dis que c'est un bon vin, sinon je laisse de côté. Mais il y avait quand même ce truc de dire, il y a quand même des vins qui sont pas très chers, tu vois, et où on peut pas dire, je pense pas que les gens les consomment vraiment pour le goût, tu vois. Alors que toi, t'es dans l'œnologie, le choix des bonnes bouteilles, la connaissance, d'avoir toute cette connaissance-là. Je pense qu'il y a quand même deux mondes, tu vois, dans le type de consommation.
Oui, complètement. C'est sûr. C'est complètement différent. Moi, je suis pas dans la quantité. Je ne cherche pas à m'alcooliser. D'ailleurs, au contraire, parce que si on est alcoolisé, je suis pas, hein, j'ai pas une auréole au-dessus de la tête. Hein. Ça m'arrive parfois de dépasser un peu les bornes ouais. en courant, mais aussi parfois en buvant. Mais voilà, quand on est alcoolisé, on perd le contrôle. Donc, on n'a pas tout ce que, en tout cas, moi, je recherche, c'est-à-dire le plaisir de déguster, de comparer, d'échanger, d'avoir des saveurs. C'est ça, en fait, que moi, je recherche quand je bois un vin. Donc, l'alcoolisation fait perdre toutes ces notions-là et c'est absolument pas ce que moi, je recherche. En tout cas en tant que consommateur ou d'amateur.
Mais pour autant, parce qu'on va pas tourner autour du pot quand même, est-ce que la consommation d'alcool et le sport sont compatibles?
Oui, je crois que c'est tout à fait compatible. Alors, je vais employer une formule qui est éculée, avec modération. Voilà. C'est Louis Pasteur, je crois, pas dire de bêtises, qui disait le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Bon, c'était à une autre époque, hein, on est d'accord, mais voilà, je pense que si on boit du vin, de l'alcool, enfin en tout cas pour moi c'est du vin, je ne bois pas d'alcool fort, je n'aime pas ça, je ne bois que du vin, de la bière pas beaucoup. Si on boit du vin en petite quantité, raisonnablement, je pense que c'est tout à fait compatible. Bien évidemment, quand j'étais athlète de haut niveau, quand j'étais sportif de haut niveau, que je m'entraînais 10 à 12 fois par semaine, il y avait beaucoup de semaines où il y avait zéro goutte d'alcool, bien évidemment. Il y a un moment où il faut quand même faire des choix. La compatibilité, elle est quand même pas parfaite. Mais néanmoins, en petite quantité, pour tous les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas sportifs de haut niveau et qui ont envie de faire et du sport et de profiter des richesses de notre pays, et donc des richesses viticoles de notre pays, je crois que c'est tout à fait compatible.
Est-ce qu'il y a quand même des garde-fous, tu vois, sur... Est-ce que tu as vu, toi, par exemple, des études ou des constats sur l'alcool, l'impact que ça peut avoir sur la performance sportive, est-ce qu'il faut prendre à certaines distances, tu vois, à quelle distance, etc. Enfin...
De toute façon, alors moi, je suis un entraîneur, je ne suis pas un spécialiste de la nutrition ou des choses comme ça, mais ce que je sais, en tout cas, de mes connaissances, c'est que toutes ces calories apportées par l'alcool sont des calories vides, ce qu'on appelle des calories vides, donc des gens en parleraient bien, bien mieux que moi, ce sont des calories vides, donc ça n'apporte pas d'énergie. Toutes ces calories qu'on va absorber quand on boit du vin, ce sont les calories qui ne serviront pas pour l'effort physique. Donc, il ne faut pas se mentir. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue purement sportif. Ce n'est pas comme ça qu'on va refaire le plein ou se dire que s'il y a un peu de sucre dans le vin, les glucides... Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça n'a pas d'intérêt pour un sportif. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, moi, ce que j'essaye de consommer, ce que je consomme par goût, mais aussi parce que c'est sans doute meilleur pour ma santé ou moins mauvais, ce sont des vins qui ne sont pas chimiques. Je, Je bois des vins qui sont plutôt bio. Alors, c'est pas dogmatique, c'est juste que dans les vins bio, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de pesticides. Donc, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas d'additifs. Donc, ce sont des vins qui ont moins d'impact négatif, pour ne pas dire qu'ils sont meilleurs. Enfin, pour moi, au goût, ils sont meilleurs, mais qui ont moins d'impact négatif sur le corps. Donc, tant qu'à faire, comme pour toute alimentation, autant prendre des produits qui soient le plus sains possible et le moins corrigé, le moins détourné possible, parce que tout ça, c'est néfaste pour l'organisme, hein. En Champagne, donc c'est quand même un vin blanc, un vin qui est très acide, contrairement au vin rouge. Un champagne qui est bourré de liqueur et qui, en plus, a du soufre, le lendemain, c'est le casse-caboulon, quoi. Donc voilà. Je vais pas dire que quand on boit un vin bio, le lendemain, tout va bien, mais moi, en tout cas, quand je bois des vins bio, même si ce sont parfois des quantités un peu importantes, le lendemain matin, tout va bien. Je ressens vraiment aucun effet néfaste.
Ouais, t'as failli dire du mal du champagne quand même, hein, sans
Ça
hésiter.
va être dur.
Hein. Ça va être dur.
Je pourrais dire du mal des mauvais viticulteurs, parce que comme partout, comme dans toutes les régions, il y a des viticulteurs qui cherchent à faire du volume, qui ne sont pas dans une logique de développer des bons produits, mais il y en a de moins en moins, ça évolue vraiment dans le bon sens.
Ouais. Tu disais pendant ta carrière, quand tu étais dans les semaines de préparation et tout, là tu ne buvais pas du tout d'alcool.
Non, je ne buvais pas d'alcool. Non, je ne pense pas au fond de moi que un ou deux verres de vin auraient changé grand-chose. Ça, j'en suis fondamentalement convaincu. Mais c'est une manière aussi de rentrer dans sa préparation, d'être cohérent dans ce qu'on fait et de se dire, voilà, je suis tourné vers un objectif, je m'entraîne et donc non, je ne fais pas d'écart, je ne sors pas, j'ai pas une vie monacale non plus. Mais voilà, toutes ces choses-là, je les mettais de côté.
Parce que, tu vois, si je te pose la question, c'est parce que souvent, on le voit quand même. Et tu vois, moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, je vois des coachs, il y a des coachs assez connus, tu vois, qui ont avoué qu'ils buvaient beaucoup d'alcool, qui faisaient partie de ceux qui, justement, faisaient la fête, qui buvaient un petit mojito par-ci, un truc comme ça, etc., tu vois, et tout. Et je peux le dire, hein, parce que si vous allez voir le compte de Lucille Woodward, par exemple, que j'ai reçu dans un de mes podcasts, elle a parlé il n'y a pas si longtemps que ça en disant qu'elle avait arrêté, qu'elle buvait moins, qu'elle faisait beaucoup de choses, elle a beaucoup communiqué dessus. J'en ai vu d'autres aussi sur ce sujet-là. J'ai vu d'autres des gens qui disent, bah voilà, je rentre en prépa marathon, hop, je bois pas une goutte d'alcool pendant toute ma prépa marathon. Donc c'est vrai que tu vois, il y a plein de gens, mais je parle pas des athlètes de haut niveau, mais des gens qui disent, bah moi je me mets en mode athlète, je bois pas d'alcool pendant ma prépa, etc. Je pense que même c'est même pas une question de mettre tous les signes, tous les trucs de leur côté. C'est être dans un mode de dire, bah là maintenant je me concentre dessus, quoi.
C'est ça, c'est une façon de rentrer dans sa préparation avec des routines, avec des habitudes. Après, moi, je sais que j'ai toujours tendance à dire aux gens, attention, évitez de vous priver, parce que ceux qui sont très rigoureux dans leur préparation, qui vont mettre beaucoup d'investissements sur l'entraînement, qui vont cesser de boire, qui vont cesser de sortir, qui vont cesser de manger des choses qui leur font plaisir, souvent derrière, on a un contre-coup et quand l'objectif est passé, déjà, on a un petit coup de moins bien parce que psychologiquement, on est un peu démuni, on a atteint l'objectif. Voilà, on a tous ce moment où après l'objectif, après la course, on se sent un petit peu moins bien parce que voilà, il y a une petite dépression dans le sens où hop, l'avion redescend un petit peu et là, on pourrait tomber dans des comportements un peu excessifs. Donc, je crois qu'il faut aussi faire attention à ça. C'est pas de se dire, voilà, pendant X semaines, je ne bois pas une goutte d'alcool, je ne mange pas une sucrerie, ni un bout de gras et je ne fais que m'entraîner. Et puis après l'objectif, allez, c'est la fiesta, quoi. Faut se méfier. Moi, je me méfie de ces comportements excessifs. Je fais très attention à ça.
Bon, ce qui est bien avec toi, c'est que tes prépas font que 10 semaines.
C'est ça.
Non, parce que genre, il y en a qui font des prépas de marathon de 24 semaines. J'en ai vu hier qu'attaquer. Alors, je le dis, on enregistre, on est le 13 novembre. J'en ai vu qu'attaquer aujourd'hui, le 13 novembre, leur préparation pour le marathon de Paris,
Paris,
avril.
Paris.
Oh
Paris.
et tu sais, moi, je regarde ça, je me dis, mais comment c'est possible? Déjà, moi, tu vois, j'ai du mal. Et en plus, là, cet épisode, on va le diffuser juste avant les fêtes. Et justement, les fêtes, c'est quand même un moment où il y a encore plus. La convivialité, la famille, les trucs à fêter, la bouteille du 1er janvier, fin de Noël, fin, tous ces trucs-là, tous ces apéros, tous ces trucs-là comme ça, quoi. Donc, c'est vrai quand même, hein, tu te dis, si je me mets pendant 5 mois comme ça, sans une goutte, il Donc, sur une période aussi longue, c'est encore plus compliqué, moi, je trouve.
Ouais, c'est ça. C'est encore plus compliqué. Et donc, je crois que là, on peut parler, moi, j'aime pas employer ce terme-là, mais là, on peut parler de sacrifice, du coup. Et pour le coup, qui dit sacrifice peut dire derrière effet rebond. Donc, on n'est pas là pour vanter les vertus du vin, même si, par exemple, le vin rouge a quand même certaines vertus. Hein. On parle de vertus un peu antioxydantes, alors les polyphénols, etc. Bon, je suis pas un spécialiste sur le sujet, mais bon, tout n'est pas à jeter dans le vin, dans certains vins, d'ailleurs. Et donc, on peut, surtout en période de fête, enfin, je veux dire, je me méfie un peu des extrémistes qui vont dire « oui, mais là, il fait l'apologie du vin ». Pas du tout. Il faut pas oublier que notre culture, voilà, je le répète encore une fois, moi je suis, et d'ailleurs c'est un sujet en ce moment dans notre société, moi je suis gaulois, je suis français, je trouve que notre pays, c'est un pays extraordinaire et que cette richesse viticole qu'on a, mais ça pourrait être valable aussi pour les fromages et pour les animaux et pour les vaches, etc. On a une richesse sur un territoire qui est gros comme un confetti à l'échelle du monde. On ne peut pas, voilà, c'est culturel, c'est comme ça. Donc on ne peut pas, d'un revers de main, faire disparaître tout ça. Et justement, il y a tellement de French bashing en ce moment où les Français ont un peu honte d'être Français. Moi, je trouve qu'on a vraiment ça pour nous et il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de nos racines. Donc les fêtes arrivent, on peut s'autoriser sans problème avoir du vin de qualité en quantité modérée pour profiter des amis et de la famille.
Pour autant, comme tu dis, hein, c'est vrai que sur les périodes de préparation, avant des courses par exemple, on va éviter peut-être quand même.
Oui, mais bien sûr, avant une course, il faut éviter parce que la charge d'entraînement est importante et parce que le vin, si je ne me trompe pas, c'est pas quelque chose qui réhydrate, c'est comme la bière. La bière, le vin, le café, ça déshydrate. Donc ce sont des choses qu'il faut consommer avec une grande modération quand on s'entraîne, parce que quand on s'entraîne, on a besoin justement de s'hydrater correctement. Et donc avant un objectif, non, je pense qu'il faut vraiment réduire considérablement, pour ne pas dire supprimer la consommation de vin, d'alcool et toutes ces choses-là. Et encore, là, moi, à titre personnel, je ne bois jamais d'alcool fort. J'en bois jamais, je n'aime pas ça. Donc, moi, quand je pense œnologie, quand je pense vin, je pense plutôt vin rouge de très bonne qualité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt bio. Bon, champagne, bien sûr, parce que c'est ma région. Mais ça reste quand même des alcools qui ne sont pas extrêmement forts et qui n'ont pas d'effet très, très néfaste sur le corps. Je bois pas de whisky, mais quelqu'un qui boit du whisky ou, comme tu dis, des mojitos, des choses comme ça, là, on a du sucre, de l'alcool. Enfin, c'est vraiment des choses qui, pour moi, ne sont pas du tout profitables en préparation de l'objectif.
Ouais. Tiens, toi qui avais des capteurs de glycémie, on avait fait un épisode sur les capteurs de glycémie et tout. Ouais. T'as déjà bu du vin et regardé l'impact sur ta glycémie?
Alors oui, enfin je l'ai fait effectivement sans le vouloir, sans le chercher, parce que après l'Alpha Ironman de Nice, on est allé boire un coup en ville. Voilà, on a profité de Nice et on est allé boire une bière, peut-être même deux d'ailleurs, juste après. Et justement, j'avais encore le capteur de glycémie. Moi, j'ai pratiquement pas de variation, mais j'en avais déjà pas beaucoup. Je n'ai déjà pas beaucoup de variation même pendant l'effort. Donc non, ouais. Ça n'a pas eu d'impact. Pourtant, la bière, c'est quelque chose quand même qui est plutôt très sucré, donc qui pourrait faire varier la glycémie. Contrairement à ce qu'on croit, la bière, c'est quand même très sucré, ça n'hydrate pas forcément, puisqu'on parle de, ouais, comme tu disais tout à l'heure, la bière après pour se réhydrater, non, ça ne réhydrate pas vraiment. Moi, j'ai toujours tenu le même discours dans les articles que j'ai écrits. La bière après l'effort, c'est top parce que c'est convivial, parce qu'on est entre amis, mais ça n'a pas beaucoup de vertus pour la récupération.
Pourtant, le houblon et tout, il y a des recherches dessus.
Ouais. Je sais pas. Je sais qu'il y avait, comment il s'appelle, il y avait un nutritionniste qui disait que la bière, elle contient, je crois, c'est du maltose. Le maltose, ouais, ça doit être ça, ouais, qui contient du maltose et donc que ça régénère les stocks de glycogène après l'effort. Mais je sais pas, faudrait. Ouais, je pense que. Il y a peut-être d'autres moyens de, re, de, re, de refaire ses stocks de glycogène que de boire de la bière. Mais après, voilà, quand c'est entre amis, et moi je suis le premier à le faire, à la preuve, hein, je l'ai fait après l'Alpha Ironman de Nice, il ne faut pas oublier là, aussi l'aspect convivial, l'aspect... Parfois, hélas, hein, on peut se couper des amis et de ses potes parce qu'on ne boit pas ou parce qu'on n'a pas envie de boire avec les autres. Et voilà, enfin, je crois qu'il ne faut pas se priver, il faut rester soi-même. Moi, je vais boire un verre de bière parce que mes amis boivent un verre de bière, mais si, comme l'autre fois, je bois un Perrier Citron, ça ne les empêchera pas, eux, de boire un verre de bière et ça ne nous empêchera pas de débriefer et puis de refaire le monde.
Ouais, mais toi, ils disent que tu es sportif, alors c'est normal.
c'est vrai. Ça, c'est l'avantage. L'avantage, quand on va en soirée, quand je dis oui à un verre de vin ou quand je dis oui, les gens sont surpris en se disant « Ah bon, tu bois, mais pourtant tu fais du sport. » Ouais, c'est vrai qu'il y a une espèce de croyance comme quoi. Donc c'est vrai que du coup, je n'ai pas le jugement des autres parce qu'on s'attend plutôt à ce que je dise non plutôt qu'à ce que je dise oui.
Mais c'est tout. Ce qui est intéressant justement, parce que moi, quand on m'a dit que tu buvais du vin, que tu étais fan de nologie et tout, je dis « Mais ouais, mais attends, puis quand ?» Parce que moi, dans ma tête, c'est moi, le sportif, il ne boit pas d'alcool, etc. Alors bon, attends. Après, soyons honnêtes, hein, j'ai fréquenté les clubs de foot, etc., même à très haut niveau. J'ai vu des joueurs se planquer derrière les cheminées des stades pour boire un coup et puis fumer une clope, etc. Donc, à plus haut niveau, tous ceux, on a vu des images de l'équipe de France de foot où il. Hein,
et, exactement, un gardien chauve bien connu qui fumait sa clope voilà. À Clairefontaine.
On a des images du documentaire de Michael Jordan où on voit fumer le cigare dans les vestiaires en play-off de NBA, pas juste après avoir gagné, mais aussi avant. Donc, soyons honnêtes, hein, c'est pour ça que je dis, c'est intéressant aussi de le dire, hein, c'est que on voit pas, parce qu'il y a les images des sportifs, etc., on voit pas et tout. Est-ce que toi, t'as connu, tu vois, dans ta carrière, toi qui as connu tellement de gens et tout, des sportifs, des athlètes, qui buvaient, mais un peu plus que la moyenne?
Dans le milieu de la course à pied longue distance, non.
Ouais.
Non, jamais. Jamais à ma connaissance. Après, voilà, comme tu le dis, on dort pas avec les gens, on vit pas chez eux, on ne connaît pas forcément leur quotidien. Mais moi, dans les gens que j'ai fréquentés à haut niveau, dans les sports de longue distance, dans les sports d'endurance, je n'ai jamais vu de sportifs qui buvaient de manière exagérée. On est plutôt justement dans cette espèce de code. Un peu drastique, d'une vie un peu monacale, c'est plutôt ça hein, dans le sport de haut niveau qui prévaut. Et les, au moins durant leur carrière, les sportifs que moi j'ai fréquentés ne buvaient pas de manière excessive.
Ouais, c'est un peu, tu parlais de sacrifice tout à l'heure, mais tu as un peu ce côté-là en fait dans le sport. J'en avais parlé dans Kimet 42 avec Emma Audio, on avait parlé un peu de ce côté aussi où il faut souffrir pour gagner, hein, c'est ça. Ce côté-là. Et ça en fait partie aussi, hein, peut-être pas avoir la vie sociale, se couper de ses amis, ou en tout cas pas avoir leur même vie, etc. On a beaucoup ce sentiment-là, et des fois je me demande, est-ce qu'il est juste de façade ou est-ce qu'il est dans la réalité, tu vois?
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est. Après, quand on voit les carrières, les post-carrières, les après-carrières de certains sportifs, où on les retrouve, ils ont pris 20, 30, 40 kilos, et on va dire qu'ils profitent de la vie. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on profite de la vie. Donc, c'est une phrase qui me plaît pas trop, qui me convient pas. Mais oui, on peut se dire que là, ils se sont pas mis à découvrir la bonne chair et la bonne bouffe et les boissons du jour au lendemain. Enfin, je ne sais pas, je suis pas dans leur vie. Mais oui, il y a probablement des comportements pendant la carrière qui ont été cachés ou des sacrifices qui ont été faits. Là, pour le coup, sacrifices parce que ce sont des choses qu'ils. Moi, pour moi, il n'y a pas de sacrifice dans une carrière de sportif de haut niveau parce que je parle plutôt de choix. Pour moi, on fait des choix. Donc, mais là, oui, il y a probablement des gens qui se sont forcés à se priver de choses et qui, après, se sont bien rattrapés.
Alors, je vais te dire, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a très longtemps, il y a longtemps maintenant, un joueur de foot qui n'avait pas de club pendant l'été avait profité de retrouver ses amis à faire les barbecues. Et pendant l'été, barbecue plus alcool, apéro et tout, il a pris 6 kilos dans l'été. Et à la fin de l'été, il trouve un club.
Aïe.
ouais, et ben ça paraît pas, mais pour un sport, il a mis au moins 6 mois pour retrouver, tu vois, les excès, etc. Et il en avait tiré une leçon en disant, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, parce que toute l'année, en fait, alors je dis pas qu'il buvait pas, tu vois, un petit truc, etc. Mais c'est vrai qu'avant les matchs, tu vois, quand ils enchaînaient beaucoup de matchs, il évitait. Il me rappelle au restaurant, il faisait attention à certaines choses, et tout. Et là, il disait, ben c'est vrai que d'un coup, je me suis mis à revivre au rythme de mes amis, en fait.
Ouais.
Et tout d'un coup, avec moins d'entraînement, il avait payé mais super cher hein, sur la balance. Il est arrivé, il a signé au club un peu comme la star. Il arrive avec des kilos en trop. Il sautait un peu moins haut, il courait un peu moins vite. Il s'est fait, il a eu des problèmes hein, quand même d'adaptation à cause de ça. Mais ce qui montrait quand même que c'est vrai que, alors est-ce qu'il appelait ça un sacrifice, je me rappelle pas, mais quand même qu'il y a une hygiène de vie minimum et que beaucoup de toute façon, et ceux qui font carrière et tout sont obligés d'adopter et dans lequel on se demande à quelle place on peut mettre de l'alcool ou pas, tu vois, c'est ça un peu le sujet, c'est-à-dire finalement faut peut-être décomplexer en disant bon bah un verre de temps en temps et comme on fait en passion c'est une chose, et on est très loin de l'addiction quand on boit un verre de temps en temps.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a même des recommandations hein, hein, de dire que finalement, un verre de vin de temps en temps, un par jour ou deux, je ne sais plus, voilà, c'est quand même relativement profitable. Hein, ça fait partie du French paradoxe. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites pour montrer que dans le sud, où justement on boit plus de vin, on a moins de problèmes que dans d'autres régions. Alors, je ne vais pas les nommer pour pas stigmatiser, pour pas que les gens qui nous écoutent le prennent mal, mais dans d'autres régions plus axé sur la bière, les gens se portaient un petit peu moins bien. Alors, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut boire du vin, mais il y a aussi ce côté un peu différent du type d'alcool qu'on boit et de l'impact que ça peut avoir sur la santé. Mmh. Après, pour en revenir aux sportifs, là encore, je ne voudrais pas choquer les gens qui nous écoutent, mais quand on est sportif d'endurance, quand on fait de la course à pied de longue distance, on sait très bien que chaque kilo, on va le payer très cher, que les excès, on va les payer très cher parce qu'on est seul face à soi-même. Il n'y a pas un petit copain qui... Alors, je ne vais pas critiquer les footballeurs, j'ai beaucoup d'admiration pour eux et pour tous les sportifs d'ailleurs, mais si ça va un peu moins bien, on est quand même 11 dans l'équipe. Si on court un peu moins vite, en course à pied, si tu cours un peu moins vite, ben voilà, tu cours un peu moins vite et l'impact, il est immédiat. Donc, il me semble que les sports individuels, donc pas forcément la course à pied, mais tous les sports individuels et particulièrement les sports d'endurance, on ne peut pas trop s'autoriser à faire des excès parce que tout l'entraînement qu'on va mettre en place, qui nécessite des heures et des heures, va être en partie un peu perdu ou sera moins bénéfique à cause de l'alcool. Je crois qu'il faut être cohérent dans ses choix et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me dis, voilà, tu ne vas pas mettre en œuvre des programmes d'entraînement, aller faire des choses qui sont parfois difficiles et puis d'un autre côté... je ne vais pas dire tout perdre, mais perdre une partie des bénéfices parce qu'il y a une bonne bouteille à boire ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a une forme de cohérence qui s'impose. Mmh.
Donc, ça veut dire que pendant ta carrière, tu as des périodes de prépa. Donc, tu ne buvais pas une goutte. Et après, donc, ta passion pour l'œnologie, c'était hors prépa, quoi.
Oui, c'est ça, à distance des objectifs. Mais j'ai jamais bu. J'ai toujours essayé. Je m'efforce toujours de boire des. Je vais pas dire des quantités qui sont minimes parce que pour quelqu'un qui boit pas forcément, ça peut paraître excessif. Mais j'ai pas le sentiment que la façon dont je bois de l'alcool a un impact négatif sur ma performance physique. D'abord parce que je pense que je bois des vins qui sont les moins impactants possibles, et puis parce que le bien-être que ça procure, les relations conviviales et tout ce que ça apporte dans le partage, parce que quand on déguste un vin avec Simon, avec mon fils par exemple, on met une chaussette sur la bouteille, on déguste à l'aveugle, on essaye de trouver quel est le cépage, de quelle région ça vient, est-ce que c'est du vin blanc ou du vin rouge, est-ce qu'il a un goût de myrtille ou est-ce qu'il a un goût de champignon. Donc on est vraiment dans le partage, on est vraiment dans la recherche, on est centré sur soi, un peu comme quelqu'un qui fait son footing. Moi je dis aux gens, quand vous courez, centrez-vous sur vos sensations. Et ben, quand on déguste un vin, on est vraiment centré sur ses sensations. Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que ça sent la pierre? Est-ce que ça sent le foin? Donc, on est vraiment sur ça. Vraiment, on est vraiment sur de la dégustation pure et dure. Est-ce que ça sent beaucoup le sucre? Un champagne? Est-ce qu'il est dosé? Pas dosé? Est-ce que c'est du Pinot? Est-ce que c'est du Meunier? Est-ce que c'est du Chardonnay? Donc, on est vraiment dans une démarche qui n'est pas de boire pour boire.
J'ai quand même une question subsidiaire dans l'histoire, c'est que tu dis en préparation on boit pas d'alcool, mais si tu prépares le marathon du Médoc.
Ah ouais, alors là, moi je dis toujours hein, quand on fait une sortie longue, il faut qu'elle soit le plus spécifique possible.
Ouais.
Donc là, il faut prévoir l'entrecôte bordelaise, les huîtres, le vin, etc., etc., etc. Ah ouais, c'est vrai qu'au Médoc, il y a de quoi faire. Hein. Après, je vois pas. Alors, je critique pas le Médoc. Hein. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait sans jamais boire une goutte d'alcool. Par contre, après, je profite. Mais je ne vois pas comment c'est possible, franchement, hein, à mon niveau, hein, mais il y en a des milliers qui le font, hein, de boire et de courir en même temps. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne vois pas comment c'est... Enfin, si, c'est sans doute possible, hein, mais pour moi, ça aurait trop d'impact sur moi pour que je puisse, pour que je puisse le faire. Donc, c'est hors de question de boire et de courir en même temps.
Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que marathon, bon, après, marathon du Médoc, je ne sais pas quel est le temps maximum pour le faire.
Ouais, je crois qu'on est au-delà des 6 heures. Hein. On est au-delà des 6 heures, largement. Hein. Mais on avait une course dans la Marne, là, pas très loin d'ici, là, qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours, je crois qu'elle existe, la Champenoise ouais. De la vallée de la Marne. Bon, ils ont arrêté une certaine formule parce que les Belges venaient et ils mettaient 4 heures pour faire un semi-marathon.
Ah ouais?
Mais ils arrivaient avec 3 grammes, quoi. Enfin, 3 grammes, peut-être même 6 grammes, hein, oui. D'alcool dans le sang. Donc, c'était devenu n'importe quoi. Au Médoc, c'est pas ce qui se passe du tout, mais on a plein de marathons festifs comme ça. Je ne veux pas dire que chaque région viticole a son marathon, mais quasiment. Le marathon de Chablis, le marathon de Sully-sur-Loire, le marathon des côtes de Beaune, enfin voilà, Beaune, l'Alsace, voilà, c'est devenu un peu une tradition et c'est très ancré maintenant dans la culture. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des courses. Ou on est déguisé, ou on boit de l'alcool et on court en même temps.
Ouais. Et il y a aussi beaucoup de courses, d'ailleurs, j'ai remarqué. Alors, d'ailleurs, il y a des traditions. C'est-à-dire que, bon, toi qui es dans le champagne, tu sais, sur les podiums, il y a les bouteilles de champagne qui sont ouvertes, etc. On va aller. Les athlètes, est-ce qu'ils boivent le champagne ou pas? Enfin, ou est-ce qu'ils se contentent de juste le pchit comme ça, là, le faire, hein, je sais pas.
Je pense qu'ils font surtout semblant.
Ouais.
Ouais. Je pense qu'ils font semblant. Alors, je ne sais pas, une fois de plus, je ne voudrais pas paraître trop offensant pour certains, mais je pense que sur un podium de Formule 1, puisque c'est souvent là qu'on les voit boire, je pense qu'ils en boivent un peu. Après, quand c'est un podium de championnat du monde de VTT ou de cyclisme, je ne suis pas certain qu'ils vont s'enquiller la bouteille. Même si, il n'y a pas de hasard, j'ai vu une vidéo il n'y a pas tellement longtemps où on voit une course cycliste et on voit des différents vainqueurs. Mmh. Alors, le premier vainqueur qu'on voit, c'est Pogacar. Et l'autre, il descend le verre de bière cul sec. Et dans les autres courses, on voit les autres vainqueurs, ils trempent les lèvres et puis ils ne boivent pas, tu vois. Donc je pense que l'idée de la vidéo, c'était de dire Pogacar, c'est vraiment un mec cool, il gagne des courses, il est bon. En plus, moi, j'adore ce gars-là. Et en plus, voilà, quand il y a un verre de bière à boire, il le descend direct. Mais la plupart du temps, je ne suis pas certain, en fonction des sportifs, qui s'enquillent vraiment la bouteille de champ.
Mais je crois que je n'ai jamais entendu une interview de sportif dire que dans sa récupération ou quoi que ce soit, qu'il buvait de l'alcool ou une bière ou qu'il buvait le champagne à l'arrivée ou quoi que ce soit. Même, il y a plein de courses où il y a des bouteilles qui sont offertes et tout, tu vois, sur les courses et tout. Moi, j'ai participé à des courses dans les régions un peu viticoles où on t'offre une bouteille à l'inscription, des choses comme ça, etc. Mais je pense pas avoir entendu un jour quelqu'un dire que il allait boire une bière ou quoi que ce soit après une course, tu vois. Autant j'ai entendu qu'il mange une pizza, qu'il mange une glace, pour se prendre je sais pas quoi et tout. Mais rarement t'entends dire oui bah tiens, je vais faire une grosse sortie ou je vais boire un coup avec les copains, etc. Je l'entends très rarement ça quand même, tu vois.
Ouais, nous dans notre région c'est quand même quelque chose qui se pratique. Ouais. Ouais, régulièrement. Dans les trails, il y a toujours un manège carré. On appelle ça le manège carré. Il y a toujours un manège carré. Et puis voilà, les gens passent du temps à boire des bières et à discuter entre eux. Ouais, si, quand même. C'est quand même quelque chose que moi, je vois. Mais c'est peut-être lié aussi à la région, hein.
Ouais.
C'est ça. Même si en Champagne, la bière, c'est pas forcément la boisson de prédilection, mais il arrive souvent de voir effectivement sur des courses, des gens passer du temps après, discuter, refaire le monde et boire une bière.
Ouais, bah moi je le fais avec un verre de ceinture.
Bah oui, voilà, c'est ça. toi, culturellement, c'est de l'eau avec des bulles, mais c'est pas du champagne. Et il faut le dire quand même, c'est mieux de récupérer la ceinture qu'à la bière, faut pas se mentir. Ça va beaucoup mieux, non, physiologiquement.
Moi, j'ai aucun mérite, c'est qu'en fait, j'aime pas ça, en fait. Tu vois, c'est le truc. J'avais une bonne blague, je disais, moi j'achète une bouteille de vin par an. Une bouteille de vin par an, tu sais ce que c'est? C'est un petit vin pour, tu sais, sucré. Tu sais, un vin blanc sucré, là, type.
Ouais, les vins liquoreux.
Ouais, les vins liquoreux, c'est le seul truc qui passe.
Montbazillac, ouais. Choses comme ça. Ouais.
C'est parce que c'est ma addiction au sucre, tu sais, qui fait ça, en fait. Moi, c'est.
Ah oui, d'accord.
J'aime bien ce côté liquoreux. Mais en plaisantant, je le disais avec ma belle famille à un moment donné, je disais, cette année, mon stock de ma bouteille, elle est là, c'est ma seule bouteille de l'année, etc. Moi, je le fais pas faire fortune, etc. Donc, j'ai pas de mérite, en fait, à dire, je bois pas, ça me prive, j'ai aucune privation, tu vois, dans ce truc-là. Mais par contre, c'est vrai que je pense que c'est normal, tu vois, tu disais, toi, c'est une passion, il y a des gens qui aiment bien boire un coup, il y a les vies sociales, etc. Et il y a plein de gens qui se posent la question de dire, mais comment je peux l'intégrer, est-ce que je m'en prive et tout. Et c'est vrai que quand il y a trop de privation, enfin, c'est vrai que tu te dis après, on peut avoir un contre-coup, c'est pas si facile que ça à gérer pour certaines personnes.
Non, c'est ça, c'est trop de privation, on tue la privation, et du coup, je pense qu'il faut se méfier du retour de bâton. Donc, après, c'est vraiment très personnel, c'est-à-dire que les gens qui vraiment se privent et risquent après cette phase de privation de craquer et d'être dans l'excès, comme c'est souvent le cas, peut-être qu'il faut leur apprendre à boire de manière plus modérée, de manière surtout qualitative. Moi, je crois vraiment que la qualité de ce que l'on boit, la qualité du vin, est importante, d'abord d'un point de vue gustatif. Moi, si je bois des vins bio, des champagnes pratiquement pas dosés, c'est parce que je trouve ça meilleur. Ça exprime le fruit, ça exprime vraiment la richesse du vin, le travail du vigneron. On a cette notion de terroir, quand on aime le vin, on a cette notion de terroir qui est très importante. En Champagne, on a des terroirs qui sont différents, et même dans des terroirs qui sont identiques, le travail du vigneron va permettre d'offrir des vins qui sont complètement différents. Donc c'est je vais pas faire une comparaison en disant que c'est comme le fromage ou c'est comme la viande. Une viande de Salers, c'est pas une viande alors j'ai pas forcément d'exemple qui me viennent tout de suite parce que je maîtrise pas le sujet, mais voilà, les différentes races bovines n'ont pas le même goût, les différents fromages bien évidemment n'ont pas le même goût, et les vins aussi n'ont pas le même goût. Donc moi je suis vraiment un fervent adepte de cette approche qualitative. Et d'essayer de découvrir ce qu'il y a de particulier et de spécifique à chaque produit, de se tourner vers des vins qui sont des vins naturels et les moins chimiques possibles, où l'expression du terroir et du vigneron, elle prend le dessus sur tout le reste.
Ouais, c'est drôle parce que dans mes recherches, j'avais cherché quand même un expert qui disait que le vin rouge augmente le taux de ferritine, et donc c'est intéressant pour les sportifs de l'extrême qui sont sujets à l'anémie, et ce qui est le cas en course à pied, hein, notamment. Et en fait, il disait aussi que ça a un effet positif sur la décontraction musculaire.
Hein? D'accord.
Mais il disait quand même, attention, c'est que c'est de là en prendre régulièrement ou quand on va chez le kiné et tout, il ne faut pas en faire. Tu vois?
Ben voilà, c'est ça.
Il y a un débat quand même. C'est-à-dire qu'il y a un vrai débat. Alors après, je ne sais pas combien il y a eu d'études et tout qui ont été faites sur ces choses-là. Mais il y a un vrai débat, et c'est vrai que il y a un truc aussi, tu vois, tu parlais dans la culture, il y a des sports, il y a la culture de la troisième mi-temps.
C'est ça.
Le fameux rugby et tout. Alors, en Champagne, le rugby, c'est pas votre plus grande spécialité.
Pas trop.
c'est pas trop.
Même s'il y a un bon club à Épernay, je leur donne le bonjour d'ailleurs.
C'est vrai qu'il y a un bon club à Épernay, t'as raison. Mais c'est vrai que sur le coup, il y a ce côté, troisième mi-temps, c'est plutôt c'est le côté bande, c'est le côté liaison de groupe, c'est le côté festif, c'est le côté rassemblement, on fête le combat. Enfin, tu vois, Bon, ça se fait avec l'alcool, mais finalement, c'est surtout le moment festif qui compte.
Oui, bien sûr. Et puis ça, c'est pareil, c'est de la culture. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se bourrer la gueule après chaque match, mais on peut quand même continuer cette culture, parce que le sport, c'est ça aussi. Le sport, c'est l'amitié. Le sport, c'est les copains. Le sport, c'est tout ça aussi. Et donc, on ne peut pas juste relier ça à quelque chose d'uniquement uniquement sportif. Alors oui, c'est vrai. Pas très loin de chez toi, il y a le Médoc. Moi, j'ai commencé par découvrir le vin dans le Bordelais. Et c'est une terre qui est très, très riche en fer, je crois, la terre du Médoc. Et donc, c'est vrai que du coup, ce vin-là, par exemple, contient un peu de fer. Et je sais plus qui disait, mais voilà, qu'un verre de vin de Bordeaux, en petite quantité, mais pas de manière très régulière, c'est pas forcément mauvais pour la santé. Donc et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de l'expression du terroir. Un vin, il peut être minéral. Un vin sur un sol sablonneux, c'est pas la même chose qu'un vin sur un sol pierreux. En Corse, par exemple, il y a des terroirs où la vigne pousse quasiment sur les cailloux. Ben, ce que va contenir le vin, c'est ce qu'il y a dans la terre. Et parfois, oui, on peut trouver des vins qui ont certaines propriétés, à condition, à chaque fois, hein, évidemment, d'y aller en douceur. Mais on va pas remonter son taux de ferritine en buvant du vin, ça c'est sûr. On n'y arrivera pas, et puis il faut surtout pas le faire.
Si je te dis le nom de Hans Gunnar Liljenvall, tu sais qui c'est ?
Pas du tout.
Ah, tu sais pas, tu connais pas.
Non,
bah, moi non plus,
non,
je connaissais
rien.
pas. Mais j'ai fait mes recherches. Il aurait été le premier athlète qui aurait perdu une médaille olympique pour cause de dopage à l'alcool.
Ah ouais? Ah non, je connais pas. C'est étonnant comme histoire. Donc il s'est fait contrôler et... Ah ouais, ok, d'accord.
1968. Et alors, ce qui est intéressant...
C'était quoi sa spécialité?
Le pentathlon. Et en fait, c'est qu'à l'épreuve à l'issue de l'épreuve de tir, en fait, il aurait eu des traces excessives d'alcool sont retrouvées dans ses urines. Il aurait bu deux bières avant le début de l'épreuve en question pour calmer son stress.
D'accord. Alors c'est étonnant parce qu'on peut penser que justement en pentathlon, enfin dans la phase où le sportif doit faire le tir, donc ce sport-là, je pense que l'alcool c'est complètement incompatible parce que il y a besoin d'une telle précision, d'une telle concentration. Mais peut-être que lui était capable de boire deux bières sans que ça l'affecte. Hélas, une fois encore, on constate que le corps humain est différent d'un individu à l'autre. Dans ma région à moi, où il ne faut pas se mentir, l'alcool coule parfois à flot, on peut voir des gens au bout de deux verres être couchés sur la table et d'autres personnes au bout de centaines de verres n'être même pas affectées. Alors c'est très mal, hein, parce que je pense que ces gens-là ne feront pas de beaux vieux et de vieux os. Mais là encore, peut-être que cet athlète-là avait l'habitude et que les deux verres d'alcool, les deux verres de bière ne l'ont pas affecté. Mais certaines personnes vont boire deux verres de bière, j'ai pas bu, hein, promis, et seront complètement, enfin vont perdre leurs moyens, surtout sur un sport de précision comme ça, quoi. Et hélas, faut pas se mentir non plus, c'est aussi une question d'entraînement. C'est terrible de dire ça, mais les gens qui ont l'habitude de boire sont capables de boire de plus en plus. Et c'est là que c'est dangereux et que ça devient une addiction. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours fait très attention à ça, parce que je ne suis pas plus malin que les autres. Et l'addiction, elle me pend au nez, comme à tout le monde. Et je suis très vigilant à ça.
Ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que l'alcool était considéré comme une substance dopante dans certains sports. Par exemple, en 2018, l'Agence mondiale antidopage a supprimé l'alcool des produits dopants. Dans certaines compétitions, les compétitions automobiles notamment, ce qui était, c'est incroyable, tu peux te dire, de l'alcool pourrait être interdit chez les pilotes automobiles. Les compétitions aéronautiques, le tir à l'arc aussi, tu vois, jusqu'en 2018, l'alcool était considéré comme un produit dopant. Donc peut-être que, tu vois, ils avaient constaté que ça avait un côté pour calmer le stress ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas du tout impossible en fait, hein.
Mais c'est sûr que, enfin, faut bien se connaître, mais je pense que ça peut effectivement relâcher un peu, et si ça n'a pas d'impact sur la concentration, sur l'attention, ça peut effectivement avoir un effet bénéfique. Et du coup là, on est dans une conduite dopante. Mais j'ai aussi moi des souvenirs. Moi, je suis fan de vélo, et j'ai des souvenirs du Tour de France, d'images d'archives où les gars ils s'arrêtaient. On appelait ça la chasse à la canette, hein.
Ouais.
Donc dans la canette il y avait de l'eau, mais il y avait parfois de l'alcool. Enfin, on leur mettait aussi, hein, comme à nos élèves, du vin rouge dans les bidons, et les mecs qui repartaient, des fois ils zigzaguaient un peu, hein, dans les tout premiers Tours de France. Mais voilà, parce que c'était comme ça qu'on fonctionnait, quoi.
Bon, je ne pense pas qu'au Tour de France il y ait une équipe cycliste qui mette de l'alcool pour améliorer. Mais
c'est sûr que non.
j'ai vu le documentaire, c'est sur les coulisses un peu des cuisines, etc. Je peux pas te garantir, je peux pas te dire, je peux pas te dire, t'affirmer qu'en fait ils boivent pas un petit truc, tu vois, une fois de temps en temps, peut-être à l'arrivée, tu vois, pour le fêter, etc. Il y a l'image, on les voit boire du champagne d'ailleurs sur le vélo, tu sais, lors de la dernière étape avant les cheveux.
La dernière étape, ouais.
On les voit toujours, cette image-là, là, qui est très symbolique, tu vois, du truc, etc.
Je suis sûr qu'ils font semblant, moi, tu vois. Ouais. Armstrong, à mon avis, je suis pas certain qu'ils buvaient sur le vélo, en tout cas, parce qu'il fallait quand même finir l'étape. Je me disais toujours, je suis sûr qu'ils font semblant de boire, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais il y a une anecdote à ce sujet-là, sur le dernier Tour de France, le manager des Jumbo Visma a balancé un tacle en disant que ses coureurs à lui ne buvaient pas de bière après la course. Alors je sais pas s'il avait vu un gars de la Groupama FDJ, parce qu'il y avait, il y a eu toutes les histoires avec Thibaut Pinot. Je ne sais pas s'il a vu un gars de la FDJ boire une bière après la course à l'hôtel, mais il les a stigmatisés en disant nous on ne boit pas de bière, nous on est très pro, et c'est pour ça qu'on a de l'avance sur tous les autres. Donc ça m'a fait un peu rire, les Jumbo Visma qui ont de l'avance parce qu'ils ne boivent pas de bière, ça m'a fait bien rigoler. Mais peut-être qu'il avait vu effectivement, et je reviens sur ce que tu dis là, un gars de la FDJ boire une bière après. Ça se trouve, c'était peut-être même pas un coureur, j'en sais rien, on ne le saura peut-être jamais. Et stigmatiser en fait cette équipe-là en disant ils boivent une bière après la course, ils sont pas pros.
Ouais, ouais, bah, c'était épique. Hein.
C'est ça. Et je me souviens que Il y a quelqu'un qui a dû fabriquer une pancarte à Marc Maillot, qui avait, j'ai vu ça sur les réseaux, il avait la pancarte, je ne sais pas, c'était du style salut le manager, enfin coucou machin, et il avait une bière à la main.
Ouais, bah oui, parce que c'est Marc Maillot de toute façon, et souvent Marc Maillot qui est dans ces polémiques, hein, faut dire dans tout. Ouais. Mais c'est vrai que, et c'est intéressant, hein, tu disais à une époque, effectivement, les cyclistes du Tour de France se dopaient à l'alcool. Ça faisait partie aussi des, bah, il y a les traditions, mais ils avaient un Tour de France qui était aussi super galère à l'époque, hein. Franchement,
ouais, ça,
des vélos qui étaient lourds, des étapes qui étaient, c'était l'ultra, quoi, vraiment de l'ultra. Peut-être qu'à l'époque, hein, ils avaient besoin, peut-être qu'ils avaient remarqué, en tout cas, je sais pas, culturel, peut-être qu'il y avait un truc qui les aidait, quoi.
Ouais, puis à l'époque, c'est ce qui se dit, enfin, c'est ce qui se pratiquait. Dans les champs, on buvait de l'alcool. Les soldats, on leur donnait de l'alcool. Enfin, voilà, c'est l'alcool, ça a longtemps aussi été utilisé pour ça. On disait que ça donnait de la force. Enfin, et quand on en donnait à nos enfants à l'époque où on le faisait, c'est aussi pour ça, parce qu'on avait cette vision de l'alcool qui n'était pas quelque chose de nocif, mais quelque chose qui donnait de la force, du courage, etc., etc. Donc, je pense que ça a mis du temps avant de disparaître et ça s'est poursuivi un peu comme ça, et aussi pour les sportifs.
Ouais. Et pour ceux qui se posent la question, pour finir l'histoire de la polémique là, sur le Tour de France, la Jumbo, quand même, ils ont servi de la bière sans alcool pour fêter la victoire de Vingegaard à la fin. Tu vois.
Ah, ils sont allés jusque-là, d'accord.
Okay. Ouais. On dit oui, on a bu 4 bières, mais de la bière sans alcool. Alors, bien sûr, après, il y a les sponsors et tout qui sont mis dans l'eau, etc. Mais ce qui montre quand même que c'est des questions qui sont intéressantes, parce que je pense que dans tous les domaines, c'est vrai qu'il y en a qui doivent aimer, apprécier ce genre de choses. Et c'est vrai qu'une vie, une saison pour des sportifs de haut niveau, elle est longue quand même. Hein. Oui. Elle commence très tôt, elle finit très tard. Il n'y a pas beaucoup de repos. Donc, tu parlais de choix, de sacrifices, etc. C'est quand même. Il y a des moments, enfin, ils ont des, puis ils roulent sans arrêt et tout. C'est que c'est pour ceux qui apprécient ces moments-là et tout, ça doit être quand même un truc à gérer. Et je pense qu'ils doivent avoir des gestions particulières de ça.
Oui, forcément, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et ils savent d'ailleurs que quand ils ont des moments où, alors voilà, je ne veux pas citer de nom, mais je connais un cycliste professionnel qui aime bien justement de temps en temps, et il sait très bien que le lendemain matin, après avoir bu une ou deux bières ou un ou deux verres de vin, il va l'avoir dans les chaussettes quand il va monter sur le vélo. Ils sont conscients de ça. Mais après, une fois de plus, je pense que c'est... On voit de plus en plus, on en parle maintenant, alors on va un peu dériver du sujet, mais bon, ne me laisse pas trop digresser, mais on voit des sportifs qui parlent maintenant des problèmes qu'ils ont par rapport à la dépression. Ouais. De plus en plus de sportifs parlent. Ouais. Il y avait un très beau reportage sur Stade 2 hier sur une plongeuse qui a arrêté le sport... du jour au lendemain, parce qu'elle était en dépression, c'était trop dur. Moi, je crois que le sportif de haut niveau, il est aussi... Il y a plein d'addictions et il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est justement de tellement s'entraîner et de tellement faire de sacrifices, c'est-à-dire que ce ne sont plus des choix de vie, mais des sacrifices, qu'il peut verser dans certains excès ou voir... arrêter du jour au lendemain. Il y a un cycliste qui a arrêté du jour au lendemain, il y a pas tellement longtemps, j'ai oublié le nom, mais voilà. Donc moi, je trouve que c'est plus sain et plus efficace d'avoir un sportif de haut niveau qui, de temps en temps, va s'autoriser une bière, qui va lui permettre de se détendre, qui va lui permettre de... parce qu'il aime ça et parce qu'il en a envie et parce que c'est dans sa culture... Ce que je faisais moi, de temps en temps, je m'autorisais à le faire, mais ça me procurait... Alors, c'est même pas une question de bien-être par rapport à l'alcool ingéré. C'est un environnement, c'est difficile d'expliquer ça. À chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours l'impression d'avoir devant moi les chantres de l'anti-alcoolisme qui vont dire ouais, il prêche pour l'alcoolisme, c'est pas bien, parce qu'on a des gens dans notre société qui sont excessifs et qui n'acceptent pas la contradiction. Donc moi, je ne me fais pas le chantre de l'alcool, hein. C'est même tout le contraire, mais je pense que pour certains sportifs, parfois, il vaut peut-être mieux avoir deux bières dans les chaussettes et faire sa sortie longue en ayant passé un bon moment et en ayant décompressé un peu que de rester sur une attitude un peu rigoureuse qui fait qu'à un moment ou un autre, on va péter un plomb parce qu'on a trop fait, justement, de sacrifice et qu'on a oublié l'important, le plus important, c'est de faire des choix de vie et de ne pas s'obliger à faire les choses. Alors on pourra me rétorquer qu'on peut très bien faire ça sans boire de l'alcool et qu'on n'est pas obligé de boire un verre d'alcool pour passer un bon moment entre amis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, à titre personnel, il m'arrive de passer de très bons moments en partageant un verre avec des amis ou sans.
Mais ce qui est intéressant, c'est que on parlait d'addiction. Et le sport est une addiction. Hein. On est au bout de 7 heures par semaine d'entraînement, on est accro aux hormones, etc. Et tu vois, dans mes recherches, j'avais trouvé, en fait, on s'est rendu compte quand même qu'il y a pas mal d'anciens nageurs et qui sont traités pour alcoolisme maintenant. Parce qu'en en fait, ils ont remplacé l'addiction de leur activité. Alors, en plus, les nageurs, les pauvres, enfin, moi, à part compter les petits carrés au fond de la piscine, c'est pas une activité très stimulante. Hein. Et en fait, a priori, certains, quand même, ont trouvé dans l'alcool un moyen, tu vois, d'avoir une nouvelle dépendance, en fait. Quelque chose où ou de après carrière, et c'est pas des petits noms hein, quand même. Dedans, il y a Michael Phelps,
23
médailles olympiques, Yann Thorpe, 5 titres, Grant Hackett, 3 médailles d'or, Ryan Lochte, bon, lui en plus, il était chopé pour dopage, alors il y a tout un tas de choses.
Il y a un Français qui a annoncé ça il y a pas longtemps, le frère de Maïla Metella.
Ouais.
Mehdi était là, je sais plus. Mmh. Et pareil, qui a eu un gros moment de dépression, un gros trou d'air après les Jeux Olympiques, je crois, et qui donc a sombré dans l'alcoolisme. Et là, il vient de revenir, et il vient d'ailleurs de faire une très belle performance. Donc voilà. Hein. Oui, je pense que des conduites excessives dans l'entraînement et dans certains sports peuvent conduire à ça. Et les chantres du zéro verre d'alcool devraient, à mon avis, prendre en compte aussi ces phénomènes-là. Mmh. Si c'est pour tomber dans l'addiction et devenir alcoolique après sa carrière, où est l'intérêt de faire du sport ?
Voilà. Et donc, ce que disait le médecin, justement, c'est que tant qu'il y avait le sport, certains de ces sportifs, bah, ils arrivaient à se limiter en disant non, mais les compétitions, il faut que je fasse attention, etc. Je limite. Et par contre, après, à la retraite, ça repart en live. Et il dit, en fait, c'est le même comportement qu'on trouve chez les chefs d'entreprise, qui sont, tu sais, qui font travailler beaucoup, 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 etc., qui sont un peu aussi sur ces comportements-là. Et alors, il peut y avoir d'autres trucs, mais qui montrent hein, que ces gestions-là, elles sont très personnelles. Hein, une psychologie autour de ça. Et que c'est vrai que la privation totale, hein, en tout cas, peut avoir des conséquences sur le phénomène de rattrapage qu'il peut y avoir derrière.
Exactement.
Qui peut être un rattrapage. C'est-à-dire que l'alcool peut être un rattrapage, d'autres, ça peut être d'autres choses, drogue, etc. D'autres, on peut penser à l'assiette. Hein. C'est vrai que tu dis, c'est vrai que le nombre de sportifs qui prennent en volume, c'est impressionnant quand même.
Ouais, il y en a certains, franchement, c'est impressionnant, on ne les reconnaît pas. Quoi. On se dit, mais comment ils ont pu être sportifs de haut niveau, enfin, qu'est-ce qui fait autant de différence, quoi. Moi, ça me surprend. Franchement, ça me surprend, mais bon, il y a des explications, forcément. Hein.
Tu as a priori Camille Lacour aussi. C'est parti de alcool, dépression, tu vois, après les...
Ouais.
C'est vrai que l'après-carrière... bon, toi, tu n'as jamais arrêté ta carrière.
Alors, j'ai arrêté... Enfin, moi, j'ai choisi le moment où j'arrêtais le sport de haut niveau.
Ouais.
Je l'ai choisi. Je pense souvent, je ne me compare pas à lui, hein, je n'aurais pas cette prétention, surtout pas. Mais je pense souvent à Bernard Hinault qui a dit « j'arrête maintenant parce que voilà, je suis au sommet et je ne veux pas faire le combat de trop ». Moi, j'ai choisi le jour où j'arrêtais, c'était très symbolique. J'avais 50 ans, c'était le championnat du monde en France, championnat du monde de 24 heures. Je me suis dit « voilà, maintenant, il faut que ça s'arrête ». Donc, j'ai choisi d'arrêter. J'avais préparé la suite et c'est vrai qu'on a coutume de dire que l'arrêt du sport de haut niveau, je me rappelle, je crois que c'est Marie-Josée Pérec qui avait utilisé ce terme-là, en disant que c'est comme une petite mort, la petite mort du sportif. Ouais. Donc, il me semble, avec toute l'humilité que je peux avoir, que quand on ne prépare pas l'après, quand on ne parle pas aux sportifs de tout ça, il y a vraiment des risques de tomber dans d'autres addictions parce qu'on n'a pas préparé l'après, on ne s'est pas projeté dans ce qui se passait derrière. Et effectivement, quand on est sous les feux des projecteurs, moi j'ai eu cette chance, je ne sais pas si j'en ai une, de ne jamais être sous le feu des projecteurs parce que le 100 km, le 24 heures, voilà, on travaille, on n'est pas des sportifs professionnels, donc on sait qu'après il y aura une autre vie, mais il y a déjà une vie professionnelle qui est bien remplie, donc on est moins sujet à ce genre de choses. Mais ceux qui sont sous les feux des projecteurs, qui sont adulés et qui, d'un seul coup, du jour au lendemain quasiment, n'ont plus rien, ouais, c'est très difficile. Donc moi, j'ai arrêté, j'ai choisi d'arrêter, donc je n'ai pas eu ce trou d'air. J'ai tout de suite basculé vers autre chose et c'est ce qui m'a permis de continuer d'être dans cette espèce d'état d'esprit, de toujours vouloir partager, échanger, et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui.
Ouais. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, justement, il y a Strong qui est sur Amazon Prime, alors je ne sais pas si tu es abonné ou pas, qui parle justement de Camille Lacour, de certains de ses athlètes, justement. Tu parlais de la plongeuse, je pense que tu parlais de Laura Marino. qui a fait un burn-out, hein,
c'est ça.
Et qui fait maintenant des trucs, c'est magnifique.
C'est ça.
Je le dis parce que je l'ai même contacté à un moment pour l'inviter dans Kilomètre 42. Ça s'est pas fait, mais qui va sauter dans, en plein air, de falaises, etc. Pour, qui est sorti de la compétition, etc.
C'est ça.
Et c'est vrai
et
que.
Elle s'éclate.
Ouais, elle s'éclate. Et ce qui montre beaucoup de ces athlètes-là, qui sont un peu fragiles et tout, c'est que l'après est super compliqué à gérer. Et que, bah, ils passent d'une addiction à une autre, hein, potentiellement, etc.
Il faut les remercier. Excuse-moi, je te coupe, mais il faut les remercier, tous ces gens-là. Enfin, moi, je les remercie publiquement parce que tous ces gens qui cassent les tabous du champion, Camille Lacour, beau gosse, champion olympique, champion du monde. Enfin, je ne connais pas son palmarès, mais ça ne doit pas être loin d'être ça.
Ouf, c'est voilà, ça.
Adulé, reconnu, admiré et qui est capable d'affronter les médias et de dire voilà, à un moment, j'ai pété les plombs. Bah, bravo parce que ça montre qu'ils sont humains. Et ça invite justement à être attentif à tout ça. Et franchement, bravo pour tous ces sportifs qui parlent, c'est génial.
Ouais. Et c'est important. Et c'est vrai qu'on en parle plus quand même. Hein, on le voit parce que
c'est bien.
Il y a eu Simone Biles qui à un moment donné ne pouvait même plus monter sur le tapis pour certaines compétitions. On
c'est
a
ça.
Eu vraiment tous ces cas-là qui sont intéressants. On a les cas où on les voit en natation. On a l'impression qu'il y a des sports qui sont plus touchés que d'autres. Ils avaient l'air de dire quand même que la natation, le problème, c'est que c'est vrai que c'est pas un sport qui est très enfin, il y a pas très beaucoup de, il se passe toujours la même chose, quoi. C'est très répétitif, très routine, etc. Donc il y a peut-être ce besoin-là de choses. Peut-être que des gens qui courent en plein air sont peut-être ont peut-être plus de variété à savoir et tout. Je sais pas.
C'est logique, il y a une forme de logique. Enfin, moi, pour à la fois courir en plein air et à la fois pratiquer à mon tout petit niveau de la natation, oui, c'est vrai qu'il faut parfois chercher le côté ludique de la natation. Moi, je le trouve dans, parce que je suis un mauvais nageur, donc moi, je le trouve dans le geste technique à apprendre, dans la répétition des exercices, mais parce que je progresse. Mais pour un nageur qui maîtrise parfaitement, faut pas se mentir, c'est comme de la course à pied, c'est des séances d'entraînement, du cardio, la technique, elle est maîtrisée parfaitement, donc c'est pas ce qu'il y a la part la plus importante, et c'est des répétitions, et puis il nage des quantités qui sont phénoménales. Donc oui, c'est exclusivement quasiment la performance qui est le moteur de ces champions-là. Donc quand la performance n'est plus là, c'est difficile de trouver des objectifs.
Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vrai que c'est un sujet qui est tabou comme ça, et qui pourtant, quand on fait des recherches, on se rend compte qu'il y a énormément de sportifs qui ont eu des soucis avec l'alcool, cette gestion-là, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, de dire bah, comment toi tu le gères, comment on peut le gérer d'une manière saine. Parce que c'est vraiment cette relation-là. Et tu vois, ce que je trouve qui est intéressant, c'est ton comparatif avec la qualité, en fait. De dire, moi, je suis dans la qualité. On pourrait dire, tu sais, c'est un peu comme on retrouve dans l'entraînement. Souvent, on essaye d'opposer qualité, quantité, etc.
Quantité, ouais,
on voit beaucoup de sports. Il y a beaucoup de trucs. On voit la quantité qui augmente quand même chez les sports en course. Ils se mettent 300 km d'entraînement. Le Canadien, là, qui voulait gagner New York, là, il faisait 270 par semaine, je crois, un truc comme ça.
Ouais, c'est colossal.
Ce qui est totalement colossal. Même toi, en courant de 24 heures et en faisant du 24 heures, tu faisais jamais autant de distance.
Quand j'étais en semaine de stage, où là, on était vraiment dans une dynamique de groupe, mais j'avais préparé le terrain, il m'est arrivé de monter à 240, 250 km par semaine.
Ouais.
Et ça reste, mais c'était exceptionnel. Ça arrivait une, deux fois, trois fois dans l'année maximum. Donc là, j'imagine facilement ce que représente entre 250 et 300 km par semaine. C'est juste hallucinant.
Ouais. Surtout sur la saison, sur une année presque complète. Et allez, tiens, pour conclure quand même, pour dire, et on n'est pas pro-alcool ou anti et tout, a priori quand même, l'équipe d'Australie aux Jeux Olympiques aurait eu un échec à cause de l'alcool, d'après la fédération. Au JO de 2012, Jeux Olympiques de Londres en 2012, les nageurs auraient eu des mauvais résultats à cause de l'alcool et des soirées, des bizutages, tu vois, de tous ces trucs-là, ils étaient trop laxistes dans leur entraînement, tu vois. Comme quoi, on peut creuser un peu, on trouvera dans plein de fédérations, dans plein de sports, etc., un vrai problématique, une vraie question qui doit se gérer, que chacun doit gérer, et on le dit en plus, là, il y a les fêtes, etc. Donc, on va le dire pour terminer là-dessus. Ceux qui préparent le marathon de « j'ai pas quel truc, Paris ou n'importe lequel », s'inquiète pas s'ils boivent un peu d'alcool pendant les fêtes.
C'est pas très grave, effectivement. Surtout si ça leur fait du bien à la tête, si ça leur permet de passer un bon moment avec des amis et que c'est pas excessif. Mmh. Ils peuvent se le permettre sans avoir de pensée, d'arrière-pensée et sans culpabiliser.
J'ai trouvé que ta règle de bâbord tout seul était très bonne. D'ailleurs, c'est Camille Lacour disait quand il était avec sa fille, il buvait pas d'alcool. Du moment qu'il était parti, hop, il se remettait à boire. Les semaines où, c'est ce qu'il disait, hein, les semaines où il avait sa fille, il était pas, il disait que j'étais pas alcoolique, il buvait pas. Et puis dès qu'il était plus là, il retombait dedans. Et je trouve que c'est une bonne règle aussi, celle que tu donnes. Et puis je le dis, on complète aussi cet épisode avec Patrick. En témoignage, qui lui a été alcoolique pendant des années et qui vous allez voir quand même. Ce qui est intéressant, c'est que il a retrouvé la course. Enfin, il s'est remis à courir, etc. Avec des distances, des performances, etc. Qui montrent que le corps aussi se régénère après. Et je trouve que c'est aussi un message positif. Donc, on diffusera ça bientôt. Que tu connais bien en plus, hein,
Patrick. Oui, oui, je connais très bien Patrick. Oui, oui. Bah, de toute façon, le lien avec Laïla s'est fait de cette manière-là. Ouais. C'est un sportif que j'entraîne, à qui j'ai conseillé d'aller voir Aude Bazin comme nutritionniste, et puis à qui je recommande les produits Happy Run parce que c'est quelqu'un qui est très pointu et qui cherche à s'améliorer sur tous les plans, Patrick. Et donc, du coup, voilà, je lui ai conseillé toutes ces choses-là. Mais ouais, c'est vrai que le corps humain a quand même des capacités d'adaptation extraordinaires. Quand on voit ce que certains lui font subir et ce que le corps est capable de faire après, dans tous les sens du terme, hein, on a quand même une belle machine à notre disposition, donc prenons-en soin. Et c'est vrai que certains lui font subir les pires choses, et pour autant, derrière, il est capable de faire des choses extraordinaires si on prend le temps de l'écouter et si on lui laisse le temps de faire ce qu'on lui demande. Moi, je trouve ça, et je ne sais pas s'il y a la plus belle machine au monde, sur Terre. Enfin, ça m'enthousiaste toujours, ça me sidère de voir ces transformations. C'est juste incroyable.
Voilà. Eh bien, écoute, on a fait un très bon pont sur le prochain épisode. Ça dans 15 jours. En attendant, écoute, merci Bruno, parce que tu vois, et moi comme ça, au moins ça va décomplexer tous ceux qui disent ouais, moi je bois un petit verre, etc. Ça gêne. On dit pas que ça favorise la performance, hein, quoi qu'en pensent certains cyclistes. On dit pas que c'est bon pour et on va pas battre le record au marathon de toute façon comme ça. C'est pas en arrêtant pour autant qu'on va battre le record au marathon non plus. Hein. Il faut trouver le milieu, c'est trouver ses propres règles, etc. Mais voilà, c'était important d'en parler parce que c'est vrai que quand même, hein, et puis on rentre dans les périodes un peu festives, etc. On en voit partout, tout le monde tend un verre, hein, à peu près, etc. Hein, sur les trucs. Donc à un moment, chacun a son truc de gestion, etc. Et on continuera justement sur cette série sur l'alcool pour dire, ben voilà, ici comment ben on peut gérer tout ça. Je crois que je t'avais déjà demandé si tu avais des trucs à préparer en 2024.
Je sais plus, peut-être. La dernière fois qu'on s'est parlé, je crois que j'avais rien vraiment de, rien vraiment en prévision. Quelques triathlons. Sur la course à pied, j'ai pas vraiment d'objectif. Par contre, il y a un truc qui va être très important pour moi en 2024, c'est que Charlotte, ma compagne, va probablement faire les championnats du monde d'aquathlon en Australie, et donc là, une fois de plus, on va conjuguer le sport avec d'autres choses, donc là les voyages et la découverte d'un continent. Donc ça va être un peu le truc prioritaire pour moi en 2024. Ça va être pas forcément moi, mais des gens que j'aime et que j'apprécie.
Eh ben écoute, en tout cas, je vous souhaite belle réussite dans ces projets là merci encore pour le temps passé.
Avec plaisir. Hein, c'est toujours un plaisir.
Tu vois, c'était très intéressant aussi. Tu partages, toi, ta vision de l'alcool, du vin, du champagne, comment tu consommais ça, etc. Parce que je trouve qu'il y a des. C'est intéressant, tu vois, de montrer ça, puis de dire aussi que finalement, ça fait partie aussi des produits qui nous entourent. Hein, et que quand vous faites des recherches un petit peu sur le sujet, les liens sont très complexes. Hein. Le cerveau humain est quand même très très complexe, et que c'est un sujet qui est quand même la dépendance. Hein. On parle beaucoup d'être accro. Je trouve qu'en fait, j'aime pas trop parce qu'on pointe beaucoup les accros au sport. J'ai vu des reportages un peu sur des gamins qui à la salle de sport une heure par jour, et on disait ils sont accros au sport, J'ai envie de dire si s'ils sont accros au sport à limite et que c'est qu'une heure par jour,
c'est ça.
Hein, je pense que
c'est plutôt une bonne addiction.
C'est plutôt une bonne addiction, et qu'on est très loin de certaines autres addictions qu'on peut croiser et dont on vient de parler, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et en tout cas, c'était important d'en parler. Bon, bah écoute, Bruno, je te remercie encore une fois.
Avec plaisir.
Je te souhaite une belle fin d'année, des belles fêtes de fin d'année. Hein, bon, même si tu vois, on est 13 novembre, j'ai un petit peu de temps, etc. Et,
ça va arriver vite.
Eh, mais ça va arriver super, super vite. Ouais. Peut-être qu'on se recroisera pour un autre épisode sur 2024. Hein, si on a d'autres sujets, on en parlera.
Bien sûr.
Et puis,
un plaisir d'échanger, de partager, de discuter comme ça, bâton rompu, c'est cool.
Voilà, écoute, et puis voilà, puis moi, tu sais, je continue à regarder ce que tu fais, tes plans, etc. J'ai pas prévu de 24 heures pour l'année qui vient, mais comme j'ai pas...
Ah.
Non, 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 mais des marathons peut-être, plusieurs marathons peut-être dans mes projets. Ça...
C'est la force de notre sport. On a beaucoup parlé des autres sports. Moi, parfois, je dis, un nageur, il nage, un footballeur, il football. Nous, on peut faire du trail, du marathon, du 24 heures, des crosses. Ça va être la période des crosses, là. On a quand même la chance avec ce sport d'avoir une pratique multiple et variée. Et tu as bien raison d'aller picorer comme ça partout. C'est tellement intéressant, c'est tellement varié qu'il ne faut pas se priver.
Voilà. Et pour ceux qui creusent le sujet, je mettrai un lien quand même parce que, a priori, l'INSEP s'est penché sur la question quand même.
Ah ouais.
Les effets de l'alcool avec des chercheurs, etc. et tout sur le sujet. J'avais des liens dans mes trucs et qui confirment l'effet état de déshydratation, régénération musculaire, enfin, tous ces trucs-là, là, comme ça. Il y a des liens qui ont été faits. Et tu vois, ça ralentit même la resynthèse du glycogène, tu vois, comme on disait la récup.
Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a du sucre dedans, mais c'est pas du sucre qu'on va utiliser.
Voilà. Voilà. Bref. Et puis, en plus, on peut rajouter que l'alcool n'aide pas à mieux dormir. Ça, c'est encore un autre truc qui fait partie des mythes. Il y en a qui disent que ça aide à dormir, mais mieux dormir, c'est pas gagné.
C'est même plutôt l'inverse. C'est même plutôt l'inverse, ouais.
Voilà.
C'est même plutôt l'inverse. Alors, effectivement, quelqu'un qui est en état d'ébriété, ah oui, c'est sûr, il va s'endormir facilement, mais il va pas passer une bonne nuit et il passera sûrement pas une nuit régénératrice. Ça, c'est certain.
Voilà. Et donc, dans les notes de l'épisode, je mettrai le lien vers justement l'étude qui a été faite. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler et qui donne un cocktail sans alcool, tiens, tu vois, comme ça. Je t'ai pas demandé ta recette préférée parce que ta recette préférée, on les connaît maintenant. Tiens, j'ai une colle à te poser. Tiens, pour finir là-dessus, un petit vin que tu recommandes, ton petit vin préféré.
Alors, si j'ai un vin préféré à mettre en avant, je dirais. Quel type de vin? Donc champagne.
Ouais.
Champagne bio, biodynamie si possible, sans dosage. Mmh. Et un 100% meunier de la vallée de la Marne. Pourquoi 100% meunier? Parce que c'est pas très connu. Et parce que j'ai longtemps habité et enseigné dans la vallée de la Marne. Donc un champagne bio 100% meunier, une cuvée 100% meunier, c'est sans doute le vin que je préfère. Et souvent, dans ces régions, on peut aussi trouver des rosés de saignée. Donc, si j'avais un vin à sortir, je dirais un rosé de saignée 100% meunier, bio et sans dosage.
Eh ben,
je ne citerai pas de marque. J'en ai une en tête, mais je pense que c'est une belle description. Déjà, on peut déjà voir un peu de quoi je parle.
Eh bien, écoute, voilà, comme ça, les gens vont pouvoir chercher à boire avec modération. Bruno, je te remercie. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode dans 15 jours. Hein, et on continuera à parler de ce sujet-là. Bruno, merci beaucoup. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.